Donc, on s'attend plutôt à ce que quelqu'un soit élu qui est à ce moment-là.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous. Heureux de vous présenter cette édition de 19h30 temps universel. On est vendredi 9 septembre 2022, une édition essentiellement consacrée au décès de la reine Elisabeth II. Le Royaume-Uni est en deuil avec la disparition de la monarque de 96 ans, remplacée par son fils Charles. Dans ce journal, nous ferons le point depuis Londres avec le correspondant de la VOA sur place, mais également des réactions en Afrique et en partie magazine. Nous irons au Tchad où le principal opposant Succès Masra a été convoqué par la justice et les grenades lacrymogènes ont ravi la vedette au dialogue national inclusif. Nous irons également en RDC où notre correspondant nous parlera de l'état de la route Bunia-Kisangani et nous terminerons par l'auteur-compositeur camerounais André-Marie Tala qui s'est entretenu ce matin avec Roger Muntu. Plusieurs milliers de personnes massées devant le palais de Buckingham ont salué ce vendredi le roi Charles III à son arrivée à Londres. Le souverain a rencontré la foule devant Buckingham Palace après avoir passé la nuit au château de Balmoral en Écosse où s'est éteinte Elisabeth II. Le nouveau roi Charles III a serré les mains du public au son des cris de God Save the King. Et sur l'atmosphère à Londres, j'ai joint tout à l'heure le correspondant de La Voix de l'Amérique sur place, Henri Rituel.
Oui, après une journée de deuil hier, les plans mis en place depuis les nombreuses années pour préparer le mort de la reine se concrétisent. Le roi Charles, tel qu'il est actuellement, et sa femme, la reine Camilla, sont venus d'Écosse cet après-midi à Londres. Ils se sont arrêtés devant le palais de Buckingham pour saluer les milliers de personnes qui se sont rassemblées à l'extérieur. Ils ont serré la main et échangé leurs condoléances avec de nombreuses personnes dans la foule. Il y avait des cris de « Vive le roi ». Une femme se pencha par-dessus la barrière et embrassa le roi sur la joue. D'autres, lui, ont embrassé la main. Le roi a sa première rencontre avec le premier ministre Liz Truss cet après-midi.
En fait, le roi Charles III est déjà dans ses habits de nouveau roi. Comment est-ce que les populations réagissent? Beaucoup disent qu'il sera très difficile de remplacer la reine en termes de popularité et de charisme, mais quels peuvent être un peu ses atouts dans ce sens?
Oui, c'est vrai. Le peuple britannique est choqué et attristé. C'est un moment profond pour la Grande-Bretagne et le Commonwealth et la place de la Grande-Bretagne dans le monde. La reine Elizabeth représentait une fille qui reliait la génération d'après-guerre au présent. Cela a maintenant disparu. Le roi Charles III pourra-t-il jouer le même rôle unificateur? Quelqu'un vers qui la Grande-Bretagne se tourne en cas de crise. La société britannique est divisée, sa politique dans le chaos et les problèmes économiques. C'est un moment difficile et crucial pour la Grande-Bretagne.
Le roi Charles III s'engage à défendre les principes constitutionnels toute sa vie. Il a promis de servir les Britanniques, reprenant l'engagement qu'avait pris sa défunte mère, Elisabeth II, il y a 70 ans. « Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de la vie », a déclaré Charles lors de sa première allocution télévisée comme souverain, qualifiant Elisabeth II d'inspiration et d'exemple pour lui et sa famille. Cloches et tirs de canon ont salué la mémoire d'Elisabeth II, de l'Australie au Royaume-Uni. Et c'est parti donc pour 10 jours de deuil national en mémoire d'une monarque qui a régné pendant 70 ans. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les cloches ont sonné à 11h, temps universel à Saint-Paul, Westminster et Windsor, où vivait la reine, et dans de nombreuses églises du pays. 96 coups de canon ont retenti, une heure après, comme symbole de ses 96 ans. Une cérémonie religieuse est prévue ce soir à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Le deuil va durer jusqu'à 7 jours après les funérailles, dont la date n'a pas été confirmée, mais qui devrait avoir lieu le 19 septembre. La reine sera inhumée en privé dans la chapelle du château de Windsor, aux côtés de son époux, le prince Philippe, des cendres de sa sœur, la princesse Margaret, de leur mère aussi appelée Elisabeth, et de son père, George VI. De retour à Londres après avoir passé la nuit à Balmoral, en Écosse, avec son épouse Camilla, Charles III sera officiellement proclamé roi demain samedi. À 73 ans, le nouveau roi Charles devient le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Il accède au trône dans une période difficile. Le Royaume-Uni est confronté à la pire crise économique de ses 40 dernières années.
Au Nigeria, on se souvient de la contribution de la reine Elisabeth II à l'indépendance du pays le plus peuplé d'Afrique. Le point avec Gilbert Tomba.
Pour le président nigérien, l'histoire du Nigeria moderne ne sera jamais complète sans un chapitre sur la reine Elisabeth II, une personnalité mondiale et leader exceptionnel. M. Buhari, dans un communiqué, affirme que feu Sa Majesté était le seul souverain britannique connu de 90% de la population nigérienne. La reine Elisabeth II était venue au Nigeria à deux reprises, du 28 janvier au 16 février 1956 et du 3 au 6 décembre 2003 pour assister en personne à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Les Nigériens s'y souviennent.
C'était une grande surprise pour tout le monde. Nous sommes tristes à propos de sa mort, mais nous prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il accepte dans son paradis. Elle a immensément contribué à la politique de développement de tout le monde entier. Elle était une grande dame, nous l'aimons bien et elle va nous manquer. Et nous prions de consoler la famille pour cette grande perte.
L'un des souvenirs les plus doux pour les Nigériens a été l'indépendance du pays en 1960. Avant cette époque, la colonie et le protectorat du Nigeria étaient dirigés par l'Empire britannique qui avait la reine Elisabeth à sa tête. Farouk Bibi Farouk est professeur de sciences politiques de l'Université nationale d'Abuja.
She was a very successful woman.
Elle est une dame qui a réussi et qui a reçu la destinée d'accéder au pouvoir à un moment difficile de l'histoire. Elle a accédé au trône à un jeune âge et à un moment difficile dans l'histoire du Royaume-Uni. Et elle a réussi à transformer ces moments difficiles en succès.
Elle avait un titre de reine du Nigeria et Hamza Lawal, ce jeune activiste nigérien, se souvient.
Je pense que c'est parce qu'elle avait le Nigeria à cœur, c'est pourquoi nos leaders l'ont appelée la reine du Nigeria. Je sais aussi qu'à un moment, avant notre indépendance, nous étions sous son territoire. Après, nous avions eu notre indépendance, nous avons été toujours très proches d'elle. Et elle était toujours préoccupée de ce qui se passe au Nigeria.
La reine Elisabeth II était emblématique et symbole de toute une époque depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et avec 70 ans de règne, elle a été un grand témoin de l'histoire moderne. Gilbert Tamba, Abuja, pour VOA Afrique.
La reine Elisabeth II avait des relations privilégiées avec l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Mais pour certains Sud-Africains, elle symbolisait aussi l'oppression coloniale, comme l'explique Valérie Hirsch, qui est donc notre correspondante à Johannesburg.
La reine d'Angleterre s'est rendue à plusieurs reprises en Afrique du Sud depuis 1947 lors de son premier voyage à l'âge de 21 ans. Elisabeth II a notamment entretenu une amitié avec Nelson Mandela qu'elle avait invité à un banquet royal en 1995 avant de visiter Soweto à ses côtés l'année suivante. Nous avons joint par téléphone Zelda Lagrange, l'ancienne assistante de Mandela. Elle l'a souvent accompagnée à Buckingham Palace. Elle raconte une anecdote pendant l'une de ses visites.
Quand il s'est approché de la reine, il a rigolé et il a dit « Elisabeth, vous avez perdu du poids ». Et la reine n'a pas eu d'autre choix que d'éclater de rire. Et je suis sûre que c'était la seule personne au monde à oser faire un commentaire sur l'apparence physique de la reine. Ce fut un beau moment apprécié avec légèreté. Et la reine aimait beaucoup le sens de l'humour de M. Mandela. Ce trait de caractère de Mandela touchait le côté humain de la reine, en dehors du protocole.
Lors d'un sommet du Commonwealth à la fin des années 80, la reine aurait tenté sans succès de persuader Margaret Thatcher, alors première ministre, de soutenir des sanctions contre le régime d'apartheid. Beaucoup de Sud-Africains reprochent toutefois à la royauté britannique qui s'est enrichie grâce au colonialisme de ne pas avoir fait son mea culpa. Le mythe de la famille royale persiste, comme l'explique le politologue Mouzam Tungé.
Vous voyez le débat qui fait rage sur l'héritage laissé par Sa Majesté, la Reine. Le fait que souvent, même dans les médias, on parle d'elle comme de la Reine, ce qui montre le pouvoir de la royauté britannique et l'héritage laissé par la colonisation.
Certains Sud-Africains critiquent aussi le fait que la famille royale n'ait jamais rétrocédé une partie de sa fortune immense acquise grâce à la colonisation, y compris le vol d'un diamant de 400 carats en 1921 en Afrique du Sud, qui orne la couronne royale. Mais pour la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, il y a des changements positifs.
I was rather surprised at the recent speech by Prince Charles, now King Charles III.
J'ai été plutôt surprise par le discours du prince Charles, maintenant roi Charles III, au sommet des chefs d'État du Commonwealth à Kigali, quand il s'est étendu sur la responsabilité de la Grande-Bretagne dans la traite des esclaves. Il a dit qu'il faut faire beaucoup plus pour qu'on puisse surmonter cet héritage atroce.
In order to ensure that we overcome this awful legacy.
Les Sud-Africains ont donc des sentiments partagés sur l'héritage de la reine Elisabeth II. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Le Rwanda, dernier pays africain à avoir accueilli le sommet du Commonwealth, a mis ses drapeaux en berne. Le point sur place avec notre correspondant à Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
La nouvelle de la mort de la reine Elisabeth II a été suivie au Rwanda par de nombreuses réactions, à commencer par le président Paul Kagame lui-même, qui a écrit sur son compte Twitter « En ce moment de tristesse suite au décès de Sa Majesté la reine Elisabeth II, nous rappelons ses 70 ans à la tête des nations du Commonwealth. Le Commonwealth est moderne et son héritage. J'adresse mes plus sincères condoléances à Sa Majesté le roi, Sa Majesté la reine » et à toute la famille royale, ainsi qu'au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth, fin de citation. En début d'après-midi ce vendredi, le ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération Vincent Biruta s'est joint aux autres diplomates pour exprimer ses condoléances à l'ambassade britannique à Kigali. Il a regretté la mort de celle qui aura largement contribué au développement des relations entre le Rwanda et l'Angleterre. Il était la reine d'Angleterre et depuis longtemps, nous avons de bonnes relations avec ce pays. Comme reine, elle savait bien notre histoire et nos relations amicales. Certainement qu'il y a joué aussi un grand rôle. Et si notre coopération s'améliore de plus en plus, c'est grâce à sa contribution. C'est pourquoi nous nous joignons à l'Angleterre et au monde entier pour lui rendre hommage. Pour Cheikh Abdulkarim Harerimana, membre du Conseil des sages au Rwanda, la reine Elisabeth II ne s'effacera jamais de la mémoire des Rwandais car elle a joué un rôle de premier plan pour l'adhésion du Rwanda au Commonwealth. Le Rwanda, comme pays, se souviendra toujours d'elle. Vous savez que c'est elle qui dirigeait le Commonwealth quand le Rwanda a demandé d'intégrer l'organisation. Une demande qui n'est pas ordinaire, parce que normalement, le Commonwealth fait rassembler l'Angleterre et ses colonies, alors que le Rwanda n'est pas une colonie britannique. C'est l'Angleterre et la reine Elisabeth qui ont accepté cette adhésion. Pour continuer de rendre hommage à la reine Elisabeth II, le gouvernement du Rwanda a dans un communiqué ordonné que le drapeau national et celui de la communauté des États d'Afrique de l'Est soient en berne dès ce 9 septembre jusqu'au jour de l'inhumation de la reine Elisabeth II. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors, quelques nouvelles ailleurs dans le monde. Pour clore cette édition, des dizaines de militants et de journalistes ont manifesté ce vendredi à Tunis pour réclamer la libération d'un collègue placé en garde à vue depuis 2 jours pour des soupçons de terrorisme Ghassan Ben Khalifa, chef du site d'information engagé INIES, qui s'oppose à toute normalisation entre les pays arabes et Israël et défend farouchement la cause palestinienne, a été arrêté à son domicile mardi. Enfin, la justice angolaise a confirmé la victoire du parti historique au pouvoir qui a donné un second mandat au président sortant João Lourenço.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Tchad, des milliers de militants du parti Les Transformateurs qui voulaient accompagner leur leader, Dr Succès Mara, convoqué ce vendredi par le procureur de la République, ont été violemment dispersés par les éléments de la police. Des vitres du siège du parti Les Transformateurs sont brisées par des tirs de grenades lacrymogènes. André Konmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
À 7h du matin, heure de N'Djamena, Dr Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, sort de son quartier général pour se rendre au palais de justice à pied. Il se met dans un cortège. Une jeune dame tenait le drapeau national, suivie d'autres femmes qui avaient les mains sur la tête. Et les jeunes ont formé un cordon de sécurité autour de leur leader en chantant l'hymne national. Et le cortège avance et à moins d'un kilomètre de marche, il est stoppé par un détachement de toutes les forces confondues. C'était le sauf qui peut. Docteur Succès Masra est obligé de se retrancher au siège de son parti et une marée humaine le suivait. Sous une pluie fine du matin, tout le quartier et le siège du parti des transformateurs sont arrosés de gaz lacrymogène. Enfants, personnes âgées et le jeune opposant sont tous asphyxiés.
À l'aide, c'est Succès Masra, à l'aide, ils vont nous tuer tous. Je suis retranché au siège. À l'aide, faites passer ce message au secrétaire général des Nations Unies, au partenaire du Tchad.
J'étouffe.
Les défenseurs des droits de l'homme estiment que cette répression est inadmissible.
Le contexte n'est pas indiqué pour ce genre de répression. On ne peut pas faire le dialogue dans la répression aveugle.
Adoum Boukar, président par intérim de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, accuse.
La poursuite même de Masra Succès en ce moment-là est inopportune parce qu'on ne fait qu'aggraver la tension sociale. Dans des domiciles privés, on a largué des grenades de lacrymogènes. C'est une scène de violence indescriptible. Et nous demandons au gouvernement de cesser immédiatement la répression aveugle de la population. Et nous demandons aussi aux partenaires du Tchad, que ce soit les Nations Unies, Union africaine, d'intervenir.
Pour le président du parti Tchad Uni, Mohamed Zen Chérif, participer à ce dialogue dans ces conditions, c'est contribuer à la souffrance d'une grande partie de la population.
Pendant que les compatriotes membres du parti, les transformateurs, sont persécutés, nous pensons que le moment n'est pas propice pour participer ou contribuer à une mascarade. Nous apportons toute notre solidarité à ces compatriotes qui sont victimes de cette répression et nous demandons aussi aux autorités de transition de cesser avec cette manière de faire des pressions sur des gens qui exercent les activités dans le cadre de la légalité républicaine.
Le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, était obligé de s'adresser à travers une fenêtre de son bureau dont les vitres sont cassées à ses militants qui refusent de vider les lieux.
Je vais vous laisser avec un message. Merci. Vous m'avez vu debout. Je vous demande de vous comporter avec responsabilité.
Merci.
Pensons nos plaies, guérissons nos blessures, séchons nos larmes et nous allons continuer cette lutte. Et je vous demande donc de ne jeter aucun caillou à qui que ce soit.
La convocation a tourné au cauchemar pour les autorités judiciaires. Après l'Église catholique, l'entente des églises et missions évangéliques et bien d'autres personnalités ressources viennent de geler leur participation au dialogue. Et pour l'instant, aucune réaction du côté du gouvernement. André Kodomadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Retour ce soir sur le sort des habitants du petit village de Niaouro dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Depuis plusieurs jours, les habitants disent que leur village est assiégé par des éléments des forces armées maliennes, des dozos et aussi des soldats blancs. Les témoins parlent de pillages, de violences et même d'agressions sexuelles. Bagassi Koura nous parle de ces témoignages.
Parmi les habitants de Niaouro qui ont fui à Sofara depuis quelques jours, les langues commencent à se délier. Tous racontent sous couvert de l'anonymat que c'est depuis plus d'une semaine que les forces de sécurité maliennes, des dozos et des soldats blancs sont arrivés dans ce village.
Ils sont arrivés dans 5 véhicules et sur 13 motos. Le soir, ils repartent et reviennent les matins. Ils ramassent nos moutons et nos animaux.
La plupart des témoins joints depuis le début de la semaine par VOA Bambara assurent que ce sont des soldats maliens, des dozos et des supplétifs russes qui occupent leur village.
Ils étaient accompagnés par des dozos, des noirs et des blancs, des militaires maliens, des blancs et des dozos. Depuis dimanche, ils sont toujours là. Ils sont arrivés le dimanche vers 5h ou 6h du matin. Jusqu'à présent, ils sont toujours là.
Cette descente a eu lieu à Niaouro, mais aussi à Tandiama. Des témoins rapportent qu'au moins 5 personnes ont été arrêtées à Niaouro, tous des hommes dont ils n'ont plus de nouvelles. Ils affirment que des femmes ont subi des violences. Certains parlent même d'agressions sexuelles.
Quand les gens les ont vus arriver, beaucoup ont fui. C'est essentiellement des femmes qui sont restées. Elles ont aussi essayé de fuir. Après, 4 hommes ont violé une femme et elle a été évacuée à Sévaré pour des soins.
Ils ont volé nos bijoux en or et en argent. Tout ce qui était dans nos sacs et dans nos valises, ils ont tout emporté.
Ousmane Diko est responsable de l'association Tabitalo Poulakou, une organisation de défense des droits humains et de la culture peul joint à Mopti.
Effectivement, plusieurs personnes ont été interpellées. J'ai appris l'arrestation de plus d'une dizaine de personnes. J'ai même de connaissances parmi elles. J'ai des témoignages sur les gens que je connais qui ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés par des soldats blancs.
Pour Ousmane Diko, le silence des autorités maliennes est troublant.
Ceux qui font ça nous déçoivent. Qu'ils sachent que nous aussi, nous sommes des Maliens. Nous méritons la paix. Nous, ressortissants de Mopti, sommes aussi Maliens. Nous méritons la sécurité. Nous n'acceptons pas que ceux qui sont censés nous protéger laissent faire ou sont même complices des exactions contre nous.
La plupart des habitants de Niaouro ont trouvé refuge chez des proches dans des localités environnantes comme Mopti ou Sofara. Les villageois disent que leur village reste toujours assiégé. À les entendre, ces soldats font la navette entre Niaouro et un camp militaire situé à Sofara. Contacté à Bamako, la DIRPA, le service des communications de l'armée, a refusé de répondre aux questions de VOA Afrique sur le sujet.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
En Ituri, dans le nord-ouest de la RDC, l'accès sur la route nationale numéro 4 qui relie Bunia à Kisangani est très difficile, tellement cette route est en mauvais état. Plusieurs bourbiers empêchent une bonne circulation, même si l'armée assure la sécurité sur ce tronçon. La population en appelle à une intervention des autorités. Reportage sur la route Bunia-Komanda de notre correspondant Alexis Kataï.
Nous arpentons la route nationale numéro 4 qui quitte Bunia pour Kisangani. À environ 20 km après Bunia, un bourbier immobilise plusieurs véhicules depuis 2 jours. Ali, chauffeur de poids lourd kényan, est le plus coincé avec ses 40 tonnes de marchandises venant du port de Mombasa pour Kisangani.
De la frontière de Mahagi à Bunia, j'ai déjà fait plus de 10 jours. La route telle que vous la voyez là est très mauvaise. Mon camion, c'est celui qui est penché là, il est prêt à se renverser. S'il tombe, je perds toute la marchandise. Ces camions transportent plusieurs produits à destination de Kisangani.
Le camion d'Ali a bloqué le passage à plusieurs autres véhicules qui se rendent à Bunia. Parmi eux, le camion qui transporte les bananes plantain de Karine, une commerçante de Bunia.
Cette route nourrit Bunia et Kisangani. Mais nous regrettons que les autorités ne s'en occupent pas. Nous payons le péage routier, mais nous ne voyons aucun retombé. Nous, nous souffrons. On dort dans la boue. Regardez mes bananes plantain. Elles sont en train de pourrir.
La route Bunia-Komanda-Kisangani est de nouveau sécure depuis quelques mois. L'armée régulière y détient plusieurs positions. Mais la sécurité seule ne suffit pas à faciliter les échanges. Jean est convoyeur d'un camion embourbé depuis la veille.
Ces derniers temps, il n'y a plus de coupeurs de route car l'armée a renforcé la sécurité. Aux autorités, nous demandons qu'elles arrangent la route. Nous souffrons vraiment. Un tronçon des 70 km qu'on devrait parcourir en une heure du temps, on les parcourt en une voire deux semaines, alors que ça devrait être une heure du temps.
En RDC, les routes nationales sont du ressort du gouvernement central. Les autorités provinciales n'y interviennent pas. Mais pour soulager ses administrés, le gouverneur militaire de l'Ituri promet d'apporter une solution provisoire. Denis Lugoya, gouverneur de l'Ituri.
Je suis sûr que d'ici là, nous aurons les moyens pour réparer cette portion-là. Au demeurant, nous avons déjà parlé avec l'Office des routes et je crois que c'est déjà arrivé au niveau aussi central là-bas et que nous pourrons avoir les moyens pour vraiment fixer cette route d'une façon définitive. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste organiser d'une façon ponctuelle. Parce que nos moyens ne nous permettent pas. Mais je crois que le gouvernement va prendre en charge. C'est une nationale. Je suis sûr que d'ici là, on aura la solution.
Le gouvernement central a signé dernièrement un contrat avec une entreprise chinoise pour la construction de la route Kisangani-Komanda-Beni. Mais le tronçon Komanda-Bunia n'en fait pas partie. La population espère voir ces tronçons être pris en compte dans un nouveau projet. Alex Katika Taï sur la route de Komanda. VO Afrique.
Washington, VO Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
André-Marie Tala, chanteur et multi-instrumentaliste de génie camerounais, a eu une carrière prolifique avec plus d'une vingtaine d'albums studio en un demi-siècle et un succès fulgurant, un artiste doué dans l'afro-jazz, la soul et le blues. Malvoyant, beaucoup le voient comme le Stevie Wonder ou le Ray Charles camerounais. Il était l'invité de Roger Muntou, suivant un petit extrait.
À cette époque, Ray Charles était très connu, Stevie Wonder était connu, Clarence Carter. Et donc, le fait, je pense que le point commun, le fait d'être non-voyant, a permis à certains de penser, comme j'étais tout jeune en commençant, à Stevie Wonder, et puis au niveau du timbre vocal et du talent, je pense que certains m'ont rapproché plutôt de Ray Charles. Que j'aime beaucoup les deux, ouais. D'ailleurs. Ouais. Ben, je pense que le Seigneur m'a béni. Il m'a donné un don que j'exploite. Comme j'ai la possibilité jusqu'à présent de travailler encore 15-18 heures par jour, je continue tant que le Seigneur décide de me garder le souffle de vie. Donc, je crois que quand on a bercé plusieurs générations, dans certains pays, on pense simplement qu'André-Marie est un poète. Dans d'autres, certains ont compris, ceux qui cherchent vraiment, que je suis guitariste, chanteur, auteur-compositeur. Donc, tout cela, bon, je reçois beaucoup de compléments quand je croise des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens, des Congolais. D'ailleurs, je connaissais Franco personnellement. Wow. J'ai connu Rochero personnellement. Ouais. Ouais. Donc, ça nous amène à sillonner le monde, à croiser du beau monde et à apprécier la vie et à continuer à donner ce que... exploiter le don que Dieu a mis en nous.
Jamena, oh, Jamena, j'irai un jour à Jamena, passant par la Tchad. Jamena, oh, Jamena, j'irai un jour à Jamena, passant par la Tchad. Oui, je sais, Tchad est un beau pays, et la capitale, c'est Jamena. Moi j'irai jusqu'à N'Djamena pour y découvrir son beau paysage. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, Gogotio, N'Djamena, Teno, Tchemla, Tchad. N'Djamena, oh oh, N'Djamena, Gogotio, N'Djamena, Teno, Tchemla, Tchad. Jamena,
Jamena. Jamena.
Bravo, 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 bravo.
Voilà donc Roger Muntu avec André Maritala. L'intégralité de cet entretien sur notre site voafrique.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, à la présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.